Le livre des règlements.
Le résultat de votre analyse?
Le règlement.
Nous devons savoir.
Pour enfin démêler l'actualité judiciaire dans le monde du sport.
J'aimerais une suspension de séance.
La cour attendra une réponse.
Avec votre arbitre, Maître Sophie Mongeon de Desroches Mongeon, avocat.
Nous en respectons les règles.
Voici le livre des règlements.
Sophie, comment ça va?
Allô, Sophie.
Bonjour, ça va très bien et vous?
Ça va bien.
Ce matin? Ah, très en forme. Il y a un beau soleil, moi, là. S'il y a un peu de soleil, je suis de bonne humeur, puis ça va très, très bien. J'ai pas un mot à dire.
Pendant la pause, Joe Biden a pris les devants dans le Michigan. Ces 16 grands électeurs qui étaient jusque-là en avance pour Trump et là, maintenant, en avance pour Biden. Donc, ça corrige la situation et les États à l'avance de Biden sont maintenant à son avantage. Il arrive au chiffre magique de 270, si ça se maintient, bien sûr. Et Trump arrive à 267. Très serré. Mais ça en prend 270 pour gagner. Donc, si tous les États restent comme ça, c'est Joe Biden, le président. Il reste encore beaucoup de votes à compter, par contre. Là. Donc, rien d'officiel, mais juste ces 16-là viennent de faire une balance entre Trump et à l'avantage du démocrate Joe Biden. Je tiens les auditeurs au courant là, tout au long de l'émission, simplement parce que je sais que ça vous intéresse de savoir qui va devenir le président des États-Unis.
Maître on sait que ce que ça va donner, ça, par exemple, au niveau légal. On sait que Trump a tweeté toute la nuit que si, pour une raison X, Y, Z, il n'y avait pas gain de cause, qui était pour alléguer la fraude jusqu'à la Cour suprême. Là.
Oui, bien, le vote par la poste, c'est son cheval de bataille de l'invalider. Et là, ben cette nuit, s'est déclaré gagnant, puis voulu amener devant la Cour suprême la demande qu'on arrête de compter les votes, parce qu'on les compte toujours. On sait qu'on a énormément de votes qui sont arrivés par la poste à comptabiliser, oui. Et c'est ceux-là qui sont davantage démocrates. On comprend les intentions de Donald Trump, mais il n'y a pas le pouvoir d'arrêter de compter les votes.
Non, effectivement, mais on sait aussi que dernièrement, il a nommé à la tête de poste États-Unis une connaissance à lui. Là. Alors, on sait aussi qu'il a fait des nominations à la Cour suprême récemment également. Alors, on comprend qu'il a installé la table pour... contredire ou discréditer les élections. Là. Fait qu'il s'est préparé à ça. Là. C'est un homme quand même assez intelligent. Là.
Oui, tout à fait, mais je pense que c'est beaucoup dans les mots et dans les actions. On va quand même voter chacun compter chacun de ces votes-là. C'est simplement la parole d'un mauvais perdant qui se trouvera les raisons d'avoir perdu les élections. Mais rien n'est encore joué. Il y a encore des chances de gagner de façon légitime l'élection, donc on va suivre ça d'heure en heure. Sophie, on sait que t'es dans ta famille, t'es très près du milieu des courses de chevaux. Tu nous en as parlé à plusieurs reprises. Dans le Nouvelliste à Trois-Rivières, on nous parle de cette industrie qui se portait déjà pas très bien avant la pandémie. Là.
Oui, c'est bien important de prendre un peu le recul. Là. C'est un historique québécois, là, cette industrie de chevaux de course. Là. La SONAC, c'est un organisme parapublic, donc le gouvernement qui gérait l'industrie des chevaux de course. On se rappelle, là, dans les années 79-80, dans les belles années de l'hippodrome de Bluebonnet, ils pouvaient se gager 350 millions de dollars pendant un programme, une fin de semaine. Donc, c'était une belle retombée.
Aïe, aïe.
Oui, c'est quand même beaucoup, hein? Et ce qui est arrivé, c'est qu'on a privatisé les chevaux de course par attraction hippique en 2009 et en 2010, et ils ont fait faillite. Ça a donné lieu à la fermeture de Bluebonnet, et à ce moment-là, l'industrie de chevaux de course est allée à Québec pendant quelques années. Mais là, la bombe a préféré détruire l'hippodrome, mm-hmm. Et le club jockey a rapatrié tout ça en 2016 pour être à Trois-Rivières. Donc, depuis que le Club Jockey, qui est un OSBL, un organisme sans but lucratif qui gère ça, tente désespérément d'être un peu comme le reste du Canada puis les États-Unis, parce que c'est juste au Québec où on a des difficultés par rapport à ce sport-là.
Ben c'est effectivement.
Oui.
Et là, on demande un appui au gouvernement?
Oui, effectivement. Et là, la balle est lancée entre le ministre des Finances puis le ministre du Travail. Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, les paris mutuels, donc les gageurs là, au Québec, donnent entre 70 et 80 millions de dollars. C'est pas rien quand même comme industrie. Et 2,5% de ça va au ministre des Finances.
OK.
Là, le problème, c'est que dans les autres provinces, en Ontario, etc., il y a une collaboration avec l'Auto-Ontario. Donc, les courses ont accès aux paris sportifs.
OK.
Donc, ouais, ouais. Quand tu vas au dépanneur là, où tu achètes un pari sportif, tu peux aussi non seulement justement acheter pour le hockey, etc., tu peux aussi gager sur les chevaux.
Ah oui, j'ai jamais vu ça. Ah oui.
Oui. OK. T'sais, Donc, ça permettrait à cette industrie-là tout simplement d'être sur le même pied d'égalité que toutes les autres provinces effectivement générer puis sauvegarder cette industrie-là
Veut. C'est pas encore le cas, c'est ce qu'on demande, c'est ça?
C'est ça qu'on demande, d'avoir accès à ça pour favoriser l'industrie de chevaux de course. D'ailleurs, avec la pandémie, avant, il y avait 400 000 $ qui se gageaient par Internet. Maintenant, c'est 1 million. Donc, on cherche une façon là, de peut-être financer la pandémie avec toutes les dépenses qu'on a faites, mais ailleurs, en intégrant l'industrie des chevaux de course à l'Auto-Québec, mais peut-être une belle façon de financer et d'obtenir plus de sous et aider une industrie. Parce que vous le savez, je le répète assez souvent, là, dans les années 70 là, et 80, les conducteurs de chevaux de course étaient aussi populaires que les joueurs de hockey. Là. Mon oncle Hervé, qui est intronisé au Temple de la Renommée, était aussi connu comme Maurice Richard à l'époque. Là.
Faudrait que ça soit plus vu, par exemple, parce que je me rappelle, moi, dans le temps, là, ils montraient les courses à la télévision, là, en fin de soirée, là, ils montraient les courses principales, si tu veux. Là, là on ne voit pas ça. Fait que les gens, c'est pour ça qu'ils aiment gager sur le hockey, parce qu'on va voir la game le soir, on va pouvoir suivre ce qui se passe. Tandis que des courses de chevaux, tu vas être à distance, tu ne sais pas, tu ne le vois pas. Fait que c'est pas pareil, là.
C'est un très bon point, Gilbert, parce qu'effectivement, la seule place que tu peux voir des courses, c'est dans les salons de Paris.
Ouais.
Tandis que si c'était accessible via l'Auto-Québec ou quoi que ce soit, ça pourrait être dans les bars réguliers et effectivement permettre à ce moment-là d'avoir des gageurs un peu plus. Donc, c'est comme une industrie qui est un peu cachée, puis qui est en compétition au niveau des paris sportifs, des loteries, puis les machines à poker, alors qu'ailleurs au Canada, c'est pas ça qui se passe.
Mais ça se peut-tu qu'on se soit mal renouvelé à travers les générations aussi et que les moins de 40 ans ne savent même pas de quoi on parle quand on parle de l'industrie de la course des chevaux? Mais tu sais, est-ce que c'est parce qu'on a voulu cacher ou parce qu'à un moment donné, les codes d'écoute, les intérêts, les paris étaient en forte baisse et qu'on n'était plus rentable?
Bien, c'est un peu parce que c'est un domaine où on parle beaucoup d'un peu de courses organisées. Okay. Effectivement,
il y a toujours... un petit peu de gimmick, là.
Oui.
Ben, un peu comme la boxe. Là,
la boxe a été, oui, c'est ça.
Ça reste toujours un peu nébuleux dans l'esprit de la personne, à savoir si c'est vraiment une industrie honnête. Là, même
c'est la même régie là, qui régit la boxe, c'est la régie des courses, des alcools et des jeux. Les courses, il y en a encore très peu, mais ça reste quand même régi par la même commission athlétique qui va suivre la boxe. Là.
Exactement, c'est le même principe. Où est-ce qu'il y a de l'argent, il faut faire attention. Où est-ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Hein? Où est-ce qu'il y a des sous, etc. Fait que c'est sûr que c'est un sport difficile parce qu'il y a des grands moyens financiers. Mais vous savez, hein, quand il y a de l'argent, il y a toujours des petites magouilles qui s'installent, malheureusement, comme qu'on a pu le constater par le FIFA Gate.
Ben oui, parlons de magouilles. La FIFA, effectivement, on n'en parle plus à cause de la pandémie, mais c'est toujours en cours, cette histoire-là. Là.
Ben oui, ça date de 2015, cette histoire-là. Et la raison que je vous en parle, c'est parce qu'hier, il y a eu un article sur, effectivement, le président actuel, qui est Gianni Infantino. C'est-à-dire qu'hier, il y a eu une dénonciation là, qui était déposée par une société suisse auprès de la CIO pour qu'il soit retiré de cette organisation-là. Ça date du 26 octobre. Ça se rajoute aux charges criminelles qui auraient été déposées contre lui par la Suisse en juillet 2020. Et là, pourquoi il y aurait eu des charges contre lui? Parce qu'il aurait rencontré l'équivalent du procureur général là, ici, là, du DPCP, là, pour discuter justement de ce scandale-là. Alors, le procureur général a dû démissionner et actuellement, il y a encore une investigation en ce qui concerne le nouveau président. Mais est-ce que vous vous rappelez exactement c'est quoi la FIFA Gate?
Rappelle-nous les faits. Très important, parce que ça fait 5 ans, puis on en a beaucoup parlé à l'époque. Là, c'était l'obtention des mondiaux en Russie puis au Qatar, là, puis une sorte de pot de vin, comme on a vu dans le milieu de l'olympisme aussi, dans les années 90-2000.
Oui, mais c'est par pur accident que la FIFA, un peu, tout ce stratagème-là s'est fait dévoiler. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu, en 2014, une enquête des Américains qui enquêtaient sur le crime organisé en Russie. Et par pur hasard, ils sont tombés sur des transactions financières qui avaient transigé par les banques américaines, donc, et des transactions financières dans le sol américain où il y avait eu des poteaux vins qui avaient été versés. Donc, il y a eu 2 enquêtes qui ont eu lieu, soit une américaine puis une de la Suisse. Les Américains n'étaient pas intéressés nécessairement aux pots de vin. Eux autres étaient intéressés au fait que les enveloppes de pots de vin avaient été distribuées sur leur territoire. Donc, ce qu'ils voulaient, eux autres, c'est l'argent du fisc.
Ben oui.
Donc, à ce moment-là, c'est là qu'ils ont fait des poursuites pour dénoncer qu'il y avait de la corruption autour de tout ça. Et récemment, ils ont obtenu un jugement où une banque a versé, a autorisé et a avoué d'avoir fait des malversations. Et c'est la banque israélienne, pardon, Apo Alim, qui doit verser 900 millions de dollars aux États-Unis pour ce scandale-là. Ça s'est passé en avril 2020. Fait que c'est tout récent, là, ces informations-là.
Et on va quand même aller jouer en 2022 au Qatar. Puis on rappelle que celle d'après, celle de 2026, eh bien c'est après avoir fait tout ce ménage-là, et ça a été obtenu par trois pays et plusieurs villes qui vont accueillir cette Coupe du monde, dont ici Montréal en fait partie, eh bien, en fait le Canada, les États-Unis et puis le Mexique. Première fois qu'on va jouer la Coupe du monde dans plusieurs pays d'un continent.
Oui, bien effectivement. Alors, est-ce que c'est encore, est-ce qu'il y a encore ce stratagème-là? Ça a l'air qu'il y a encore des échos que ça pourrait encore avoir lieu parce que ces contrats télévisuels-là sont extrêmement lucratifs et effectivement, il y a encore des enveloppes là, qui traîneraient là, pour obtenir ces affaires-là. Mmh. Et ce qui est important, juste pour terminer, c'est que justement, là, en versant cette somme-là, cette banque-là, elle a appliqué un accord qu'on dit « Deferred Prosecution Agreement ». Ça veut dire qu'ils payent ce montant-là avec une promesse qu'ils ne leur feront plus jamais, mais en échange, toutes les plaintes pénales ont été abandonnées. C'est comme un « je te donne ça, je m'excuse, je ne leur ferai plus », mais il n'y a aucune poursuite là, qui est entamée. Là.
Mm-hmm. Maître Mongeon, en souhaitant une excellente semaine, merci pour ce rappel des faits, parce que c'est vrai que pendant la pandémie, on ne peut point parler du FIFA Gate, puis il y a eu au cours des derniers mois, au cours de l'été surtout, pas mal de mises à jour là-dessus. Là.
Oui, effectivement. Alors, c'était un petit anniversaire de 5 ans de cet événement-là.
Absolument. Merci beaucoup, Sophie.
Bonne semaine.
Bonne semaine. Bye-bye.